Hello et bonjour à Minter Dialogue, épisode numéro 91. Cet entretien est avec Diane Aubry, fondatrice de Gladtrotter, un start-up basé à Pazzi à Paris qui permet aux touristes de trouver des guides pour des visites insolites de vos villes préférées et surtout de Paris pour l'instant. Dans cet entretien, nous découvrons son service, la particularité de ses guides et comment Diane est en train de marketer et développer son start-up. Plein d'enseignements et une initiative sympathique et disruptive dans l'écotourisme. Bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog MinterDial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue.
Eh bien, bonjour et bienvenue à Minter Dialogue. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un en face de moi, dans un bon cogent à Paris, que j'ai rencontré grâce à, d'abord, un article en direct matin, dont on va parler évidemment avec Pokémon Go au milieu, et ensuite grâce à Twitter qui nous a fait le lien, et puis on s'est rencontré. Diane Aubry, merci d'être venue, et dites-nous ce que vous faites, et racontez-nous un peu votre histoire.
Bonjour, j'ai fondé Gladtrotter, qui est une plateforme qui met en relation deux communautés, une communauté de touristes et une communauté de guides locaux. Nous sommes basés à Paris et le site a été lancé en mars 2016.
Donc c'est tout nouveau.
C'est tout récent.
Alors Gladtrotter, j'adore le nom d'abord, bravo pour cette idée. Quelle est l'idée et le leitmotiv derrière Gladtrotter?
L'idée de Gladtrotter, c'est de révolutionner la manière dont on voyage, c'est de sortir du tourisme de masse. La proposition de Gladtrotter, c'est de dire le meilleur moyen de connaître une culture, c'est grâce à ses habitants, grâce aux locaux qui sont dépositaires de cette culture. Et dans ce contexte, lorsqu'un touriste, un voyageur est à l'hôtel ou même dans une location saisonnière, il a finalement assez peu de contact avec le local. À l'hôtel, c'est une relation commerciale et sur Airbnb, on a de plus en plus de mal à voir son propriétaire. Donc Gladtrotter s'inscrit dans cette idée de partager sa culture et de faire découvrir son Paris, son Londres, son Berlin.
Alors, pour être guide là-dedans, est-ce que je peux, moi, Minter, m'inscrire en tant que guide parce que j'adore le 8e où j'habite, je connais un peu les coins, je sais où sont les plaques de gens enfin, célèbres, ou est-ce qu'il faut être un guide attitré? Comment ça se passe pour ça?
Oui, tout le monde peut s'inscrire sur Gladtrotter. Tout le monde, à partir du moment où vous êtes désireux de partager votre culture, il ne faut pas confondre le statut de... Le rôle de guide local et le rôle de guide conférencier, qui est un guide professionnel qui l'a eu à l'issue d'une formation et qui lui permet, ce guide conférencier, de faire visiter des musées. En revanche, le guide local va vous proposer ses meilleures boulangeries, ses meilleures fromageries, de faire du footing dans son quartier, de vous montrer sa ville d'une manière insolite et en tout cas toujours personnelle.
Et c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on voit le monde du voyage, en ce qui me concerne, j'adore aller dans des endroits où je connais quelqu'un. Parce que c'est comme ça que j'ai l'expérience locale, je dîne chez eux. Donc ça, c'est pour ça que j'ai vraiment aimé, Diane, cette idée. Donc Gladtrotter, alors l'article qui a fait tilt et qui nous a rendu ensemble, il s'agissait de la tour Pokémon Go. Donc c'est quoi cette histoire?
On a chez Gladtrotter une équipe de jeunes collaborateurs et que je vois jouer chez Gladtrotter à Pokémon Go. Donc, partant de ce constat, je leur ai demandé de concevoir une visite où les parents pourraient découvrir Paris et en même temps les enfants pourraient s'amuser à jouer. les enfants, les grands-enfants aussi, puisque évidemment ça touche tous les âges.
Ah bon?
Je crois d'ailleurs que vous-même...
Je suis niveau 23 aujourd'hui.
C'est ça. Donc l'idée donc, c'est de proposer une offre qui soit adaptée aussi à la famille, parce que s'il y a bien une catégorie de voyageurs qui est concernée par... le fait d'être guidé, c'est bien les familles. On se pose la question toujours quand on voyage à l'étranger, qu'allons-nous faire avec un enfant de 5, 10 ans ou même un ado? Qu'est-ce qu'on va faire qui ne va pas être, entre guillemets, ennuyeux pour lui? Et on trouvait que dans ce cadre-là, effectivement, une découverte de Paris sur les traces des Pokémon, c'était la réponse.
C'est génial. Alors, donc, il y a combien de guides? Donc, le Globetrotter est en 4 pays aujourd'hui, mais je suppose que le pays phare, c'est la France. Combien de guides y a-t-il? Et quel est l'objectif par rapport aux guides?
Oui, en effet, comme nous sommes situés à Paris, que Paris est la première destination touristique au monde, naturellement, nous avons 90% de nos guides qui sont en France et principalement à Paris. Ils sont à peu près au nombre d'une centaine et ils proposent 150 activités. L'objectif de Globetrotter est de se développer dans les principales capitales européennes et de compter par pays à peu près 1000 guides.
D'accord. Et c'est quoi le business model de Globetrotter?
C'est un modèle assez classique de plateforme de mise en relation où Globetrotter prend une commission qui s'élève à 15% de ce que le guide demande.
Mais est-ce que vous avez un regard sur les montants ou ça c'est simplement au gré de chacun, combien il charge?
En fait, le guide est libre de proposer un prix. Ensuite, c'est le marché, c'est donc la demande qui va indiquer le prix. Si le guide est trop cher, effectivement, il ne sera pas réservé. S'il n'est pas assez valorisé, il pourra éventuellement se dire que ça n'est pas de qualité. Donc, effectivement, il y a un prix que le guide doit trouver. On peut lui proposer des fourchettes hein, par rapport à ce que nous constatons, nous, du marché. Mais en tout cas, il est libre de fixer lui-même le prix, oui.
Alors, Diane, le... Globetrotter est un marché, un marketplace, mais on lie les guides avec les touristes, les consommateurs. Lequel des deux est plus important à développer ou est plus dur à développer entre le guide et les consommateurs?
Les clients, les consommateurs, puisque on trouvera assez facilement des gens qui vont rechercher un complément de revenus. Je précise que donc effectivement, être guide local sur Globetrotter, c'est concerne des gens qui ont un peu de temps et qui recherchent un complément de revenus. Donc oui, la communauté de guides est relativement facile à développer. En revanche, faire connaître Globetrotter auprès des clients, ça c'est vraiment le challenge à réaliser.
Alors quels sont les moyens utilisés et comment est-ce que vous faites pour vous faire ressortir du lot? Parce que c'est un peu le fléau de tout le monde de paraître première page de Google. Est-ce que vous avez une stratégie SEO, SEM, comment vous faites pour y arriver?
Oui, il y a deux axes dans le développement de Globetrotter. Il y a un axe B2C et un axe B2B. En ce qui concerne le B2C, donc, on cherche par tous les moyens à faire connaître Globetrotter, que ce soit par une stratégie de mots-clés, par une stratégie de relations presse, comme on a pu faire sur Pokémon Go. La stratégie B2B, là en l'occurrence, c'est d'être intégré chez tous les prescripteurs de ce type d'activité.
Donc tout le monde qui est dans les agences, les hôtels, des gens qui reçoivent des touristes.
Exactement, ça va être aussi bien des hôtels et des concierges, par exemple, d'hôtels, de la conciergerie privée. Car en fait, il y a tout un écosystème qui se développe aussi autour de Airbnb pour proposer des services, les mêmes services qu'en hôtellerie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commander dans sa location Airbnb un chef à domicile, un babysitter, peut-être pourquoi pas un masseur et bien sûr des activités Globetrotter. Donc effectivement, on se rapproche aussi de tous ces acteurs qui sont dans l'écosystème de Airbnb.
Regardons le site que je trouve très bien fait et très simple et ergonomique et sympathique. Bravo. Est-ce que le plus de trafic est sur le desktop ou sur le mobile? Comment ça se passe?
Le mobile. Mmh. C'est sûr que les connexions sont à 80% sur mobile.
Et alors, quand vous avez développé le site, comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir ce site? Alors, est-ce que c'était mobile first ou c'était un co-développement ou c'est juste responsive?
Le site, la priorité, effectivement, c'est que le site soit utilisable sur le mobile et sur l'iPad, enfin sur les tablettes. Mm-hmm. Donc, le site est intégralement responsable.
Alors, d'accord, responsable, ok. Et alors, par rapport aux réseaux sociaux, quel est l'usage, l'utilisation et comment ça se passe pour passer avec Twitter, Instagram, Facebook, pour être vu? Est-ce que vous trouvez des choses qui marquent, qui marchent pour partager des key success factors? Est-ce que c'est dur? Ou est-ce que juste reste difficile?
Oui, je ne vous cache pas que c'est difficile parce qu'on démarre de zéro, donc il faut créer une communauté de followers et de fans, donc ça prend beaucoup de temps. Et tant qu'on n'a pas atteint cette masse critique, effectivement, c'est compliqué d'avoir un relais dans les médias sociaux, mais en tout cas, on met à jour les pages, on alimente et la communauté croît de petit à petit.
Alors, donc ça fait un an que vous êtes dessus, mais juste 6 mois en réel. Quelles ont été les plus grandes surprises, bonnes et mauvaises jusqu'à présent?
La bonne surprise, déjà, c'est de vous rencontrer grâce à Pokémon Go. Ça, c'est quand même une surprise surprenante. Les bonnes surprises, la mauvaise surprise, c'est que effectivement, ça prend du temps, mais c'est pas vraiment une surprise. Ça prend du temps de faire connaître un site auprès du grand public. L'une des difficultés aussi de Gladtrotter, c'est que comme ce sont des guides qui ne sont pas professionnels, ces gens-là ne vont pas évidemment être disponibles. On a quelques étudiants sur Gladtrotter et c'est en fonction évidemment de leur agenda, donc c'est toute la difficulté de ce type de plateforme, mais on résolvera ce problème en faisant croître la communauté de guides, je pense.
Alors des systèmes comme One Fine Stay ou Airbnb, est-ce qu'ils sont des alliés par rapport à ça?
En ce qui concerne Airbnb, on est plutôt concurrent puisque Airbnb vient de racheter un de nos concurrents espagnols qui s'appelle Trip4Real, qui est donc une plateforme qui met en relation guides locaux et touristes. Donc, il vient d'être racheté ce week-end. Enfin, l'annonce a été faite ce week-end. One Fine Stay, pour l'instant, ne s'est pas positionné sur le marché, donc ça peut être, pour le coup, plus un client.
Oui, parce qu'en fait, ils sont sur cette idée de avoir cet esprit, cette visite un peu plus insolite.
One Fine Stay?
Oui. C'est un peu le leitmotiv, c'est d'essayer de donner un peu plus haut de gamme, un peu plus insolite par rapport à un Airbnb qui est un peu plus démocratique.
Oui, oui, absolument. Un One Fine Stay est plus sur un segment, on va dire, luxe et premium.
Alors, donc, Gladtrotter, il est... C'est un mot qui est anglais. Aujourd'hui, vous êtes principalement en France. Quel est le monde, quels seraient les pays les plus importants dans le développement? Parce qu'il y a le Portugal, d'après ce que je vois, il y a l'Italie, le Portugal et le UK aussi.
Oui, l'idée, c'est de développer l'Europe en commençant par l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grande-Bretagne, mais à travers leur capitale. À terme, puisque la destination favorite des Français se trouve être les États-Unis, on a le projet également de développer Gladtrotter aux US pour proposer notre offre aux Français. Puisque...
La difficulté de ce projet, à mon avis, évidemment, reste que c'est extrêmement local. C'est-à-dire que c'est évident que les gens doivent être du coin. Il faut les développer, il faut les connaître. Et quand on intervient, si je devais interroger quelqu'un qui est basé je ne sais pas où, à Munich, alors combien vous connaissez bien Munich? Il va raconter ou elle va raconter, mais vous ne connaissez pas tous les coins. Est-ce que c'est vraiment bien ou pas bien? Parce que je suppose que vous interrogez quand même, essayez de qualifier la qualité de chaque.
Oui, chaque guide est interviewé. On vérifie le contenu de son offre, on vérifie effectivement sa capacité à pratiquer les langues étrangères, parce que aussi l'une des révolutions de Gladtrotter, c'est de proposer le tour dans la langue maternelle du touriste. L'idée dans le développement européen, c'est de se doter de collaborateurs ambassadeurs qui sont originaires de la ville en question et qui pourront en fait avoir un regard pertinent sur les guides locaux.
Alors, qu'est-ce qui fait un guide réussi ? C'est-à-dire que parmi les guides qui ont déjà travaillé, quels sont les critères, l'attitude le plus adapté ?
Je crois d'abord qu'ils doivent être curieux et aimer accueillir les gens, en fait. Il y a une notion d'hospitalité chez le guide qui est incontournable. Et c'est aussi la volonté de partager ce qu'on aime de chez soi.
Alors si donc je suis un jeune ou quelqu'un qui a envie de partager dans mon coin, comment je fais pour m'abonner ou quelle est la procédure ?
Assez simplement, vous vous connectez sur Gladtrotter, vous vous inscrivez avec un login, un mail ou un mot de passe ou même un Facebook check-in qui est encore plus rapide. Et la création de votre offre se déroule en 5 étapes. Ça passe de la description de votre offre au prix, en mettant des photos, en renseignant un agenda, et ensuite vous validez, ça arrive dans le computer de Gladtrotter.
D'accord, génial. Et quel serait le meilleur moyen de connecter avec vous ? C'est-à-dire vous trouver, vous suivre, vous connecter avec vous, Diane ?
Ah, mais vous pouvez me retrouver sur Twitter. Vous pouvez me retrouver dans...
C'est quoi le handle ?
L'adresse ? Alors là, pour le coup...
Non, votre adresse Twitter.
Elle est extrêmement compliquée.
Oh d'accord. Bah, on le mettra dans le show notes après. Et sinon, il y a d'autres moyens ?
Oui, vous pouvez me retrouver aussi dans des salles de musique, de concerts classiques.
Ah oui ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que je suis mélomane, donc je suis assez souvent dans ces salles-là, mais en fait, en même temps, il y a du monde.
Bah, j'imagine bien. Bah, Diane, merci beaucoup d'être venue. Plaisir de vous avoir. Et donc, aux auditeurs, de bien regarder Gladtrotter pour une visite insolite. Merci beaucoup, Diane.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Minter Dialogue, le podcast du digital marketing en français. Vous trouverez les show notes sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement et créateur du Hub Forum, Jacques Land de Laura Merlin, Marc Rougier, président et cofondateur de Scoop.it, Gilles Barbier, PDG de Dimaou, ou encore Eric Blot, PDG d'Awakit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon tuto français, MDIALFR, ou bien sur MDIAL, où je tweet en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, THEMYNDSET, où j'écris sur les enjeux des marques et le digital marketing. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez en train de l'écouter.
Coming up on 5-Minute News, I'm Anthony Davis. You might think it's partisan because maybe it's critical of one side or the other, but it's not, it's just the truth. And I think that's also something that's kind of unusual for Americans listening to the radio or to podcasts, because the news landscape in the States has been so partisan for so many decades. So 5-Minute News is verified, truthful, independent, unbiased, and essential world news daily.